Bon, je vais essayer de vous parler de physique des avalanches de neige. Et je vais essayer de parler le plus possible de modélisation avec le minimum d'équations. Donc on va essayer de faire beaucoup de physique et très peu de mathématiques, même si on se sert beaucoup des mathématiques et des outils de représentation pour résoudre les équations complexes auxquelles on aboutit quand on fait de la physique. Alors, ce travail n'est pas personnel, c'est un travail d'équipe. J'ai cité ici de nombreux étudiants, de nombreux thésards qui ont contribué à ces développements, donc je les associe je les cite parce qu'ils ont contribué à ça. Alors, normalement, ça devrait marcher. Voilà. D'abord, pourquoi on s'intéresse aux avalanches? Eh bien, parce qu'en France, on a 600 communes qui sont concernées par le risque d'avalanche, essentiellement dans les Alpes, dans les Pyrénées et un peu en Corse. Donc, sur plus de 15 départements, l'ampleur des dégâts est inférieure à 1% des dégâts des risques naturels en France. Alors, on peut se demander, mais pourquoi on s'intéresse à ce risque, qui est à peine 1% des risques liés aux inondations? Eh bien, on s'y intéresse parce que, d'une part, ça a un retentissement médiatique très important. Et au jour d'aujourd'hui, quand il y a un dégât d'avalanche dans une montagne, il y a la télé qui passe 3 jours. La dernière, c'est Mont-Roc. Il y a eu 11 morts par une avalanche dans des habitations. TF1 a fait sa une 3 jours de suite depuis Mont-Roc. Mais aussi, il y a quelque chose qui est caché derrière le fait qu'on n'ait que très peu de dégâts. Si on a très peu de dégâts, c'est aussi parce qu'on a fait beaucoup de prévention depuis longtemps. C'est-à-dire sur les pistes de ski, on déclenche les avalanches avant d'ouvrir les pistes. Sur les routes, chaque fois qu'il y a des précipitations importantes, la DDE se déplace et déclenche et sécurise. Et c'est peut-être parce qu'on a suffisamment investi dans la prévention qu'au jour d'aujourd'hui, on a des dégâts faibles. Donc il faut pas interpréter ce 1% comme ça. Alors, les avalanches, ça fait aussi des dégâts, mais j'y reviendrai par la suite. Donc, l'ampleur des dégâts, on a à peu près 1206 accidents, 40 accidents par an, 30 morts par an. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que il y a très peu de gens qui sont tués chez eux par une avalanche. C'est surtout les gens qui vont sur le terrain, qui font de la randonnée, qui font du ski, de l'alpinisme. Et donc, les gens qui sont concernés par la prévention et la protection que l'on peut faire, ils sont très peu. Alors, la gestion. Qui s'occupe de gestion des avalanches? Il y a, ce que j'aime bien dire souvent, c'est que un couloir d'avalanche, c'est 1 km, 2 km, 3 km, c'est souvent dans une seule commune. Donc la gestion, le risque reste dans la commune. Donc l'échelle de gestion est égale à l'échelle du phénomène. La demande sociale. Bon, il y a la sphère des citoyens qui veulent surtout pas avoir de problème quand ils font du ski ou quand ils se déplacent en montagne. La sphère de médiation, les médias, ils adorent les catastrophes. Et chaque fois qu'il y en a une, on a la télé pendant un certain temps. Ensuite, il y a les acteurs publics chargés de la prévention. Il y a le ministère de l'Environnement, il y a le préfet, il y a le maire, pour ne pas ne citer qu'eux. Et puis, il y a les acteurs chargés de la mise en œuvre de la politique publique. Il y a la sphère technique et industrielle. Là-dedans, on peut trouver les bureaux d'études. Industriels, c'est tous ceux qui s'intéressent au déclenchement artificiel des avalanches. Et puis, il y a la sphère scientifique et académique qui est normalement là pour développer des connaissances qui servent à l'ensemble des sphères précédentes. Alors, les questions que l'on se pose hors crise, on va se demander où et quand le phénomène va se produire et comment se protéger et s'assurer. Voilà les questions quand il n'y a pas de phénomène. Au jour d'aujourd'hui, les habitants de montagne qui sont concernés par le risque vont se poser la question où spatialement et quand l'avalanche va se produire et puis comment me protéger. En cas de risque avéré, c'est-à-dire je suis en montagne, dans une zone à risque, et puis il y a une précipitation d'1,50 m de neige froide. eh bien, à ce moment-là, le maire va se poser la question où, quand et comment évacuer les gens et où les placer. Et puis, en cas de catastrophe, bon, bah là, il faut secourir les gens, les aider psychologiquement, médicalement, et puis reconstruire. Alors, la demande et les outils dont on dispose, ce sont des données historiques. Ce sont aussi des outils de simulation et d'expertise qui permettent de répondre aux deux principales questions, c'est-à-dire le zonage, trois questions. Le zonage, c'est-à-dire cartographier sur l'ensemble du territoire les zones qui sont exposées au risque. C'est-à-dire qu'on n'autorise pas les gens d'aller construire leurs habitations dans une zone où le risque est important. C'est ce qu'on appelle le zonage. Quand le risque est important dans un secteur où il y a déjà des habitations, eh bien, il faut protéger. Donc là, on a un certain nombre de techniques de protection, soit en neutralisant la zone de départ des avalanches, soit en mettant des ouvrages qui ralentissent les avalanches, qui les dispersent ou qui les arrêtent. Et puis on a l'autre outil qui est la prévision dans le temps et annoncer le risque. C'est ce que fait Météo France chaque jour de l'hiver. Alors, un des outils naturalistes, je reprendrai bien le terme utilisé par ma collègue de tout à l'heure, on a un certain nombre de personnes qui utilisent des techniques classiques de type stéréo, stéréophoto, et qui repèrent sur les photos aériennes l'ensemble des traces laissées par les avalanches, et qui les reportent sur des cartes, et ces cartes sont distribuées aux maires ou aux bureaux d'études pour qu'ils s'en servent pour faire le zonage. Donc voilà une base de données qui couvre à peu près l'ensemble des massifs alpins, l'ensemble des massifs français. À côté de ça, on a une grosse base de données où l'ONF, l'Office National des Forêts, et le CEMAGREF suivent plus de 4000 couloirs. Et chaque fois qu'une avalanche se produit dans un des couloirs, il y a un technicien des services de l'ONF qui se déplace, qui relève l'altitude de départ, l'altitude d'arrêt, et il estime le volume du dépôt, et il nous donne des informations sur la météo. Quelle température, quelle est la précipitation des 3 jours précédents, etc. Et cette base de données, eh bien, est très utile. Et je vais vous montrer l'utilité tout à l'heure, en particulier par rapport à la modélisation. Bon, évidemment, la durée des séries et puis la qualité de données dépend beaucoup du technicien chargé du recueil. Certains le font vraiment avec beaucoup de sérieux, d'autres le font depuis le bar, avec des jumelles. Voilà un exemple de couloir pour lequel on a la date. Par exemple ici, en 1905, la première avalanche, elle est partie à 2200 mètres d'altitude, elle s'est arrêtée à 1050, elle avait un volume de 3000 mètres cubes de neige. Jusqu'en 1970, partie à 1700, s'arrêtait à 1000, avec 108 000 mètres cubes de neige. Alors, à quoi ça peut servir? Eh bien, si vous avez fait un peu de statistiques, si j'ai, par exemple, un siècle de données, chaque année une avalanche, et chaque année j'ai une distance d'arrêt maximale atteinte. Eh bien, je vais prendre toutes mes données, je vais prendre mon profil topographique du couloir, c'est-à-dire l'altitude en fonction de l'abscisse, que je relève sur une carte, et puis je vais reporter mes distances de départ, mes points de départ, et puis mes points d'arrivée. Et puis je vais classer ces données par ordre croissant de distance parcourue. Et je dirai que quand j'atteins la 50e distance, je dirai que cette avalanche a une chance sur 100 d'arriver chaque année. Quand j'ai la 60, 70, 80, 90, 100, quand j'arrive à la 100e, eh bien c'est l'avalanche qui a une chance sur 100 d'arriver chaque année sur mon couloir. Et c'est cette référence centennale que l'on retient pour le zonage. D'accord ? Mais maintenant, imaginez que l'on n'ait que 50 années de données. Donc je peux, avec cette méthode-là, calculer l'avalanche qui a une chance sur 50 ans d'arriver. Mais la réglementation me demande l'avalanche centennale. Alors comment faire ? Bon, on peut, par exemple, extrapoler, partir des données et les extrapoler. Mais le problème, on va rencontrer une difficulté, c'est que en fonction de la nature du couloir qui n'a pas été touché par l'avalanche, eh bien l'interpolation ne va pas se faire de la même manière. Si on a un couloir qui remonte, on fonde vallée, on remonte, eh bien l'avalanche n'ira pas plus loin. L'avalanche centenale n'ira pas plus loin. Si par contre j'ai un couloir qui descend et dont la pente augmente, eh bien dès que l'avalanche aura dépassé ce coin-là, elle va accélérer et elle ira très très loin. Donc en fonction de du type de couloir, la distance, le zonage réglementaire ne se fera pas de la même manière. Donc ces données ne servent à rien. Du moins, comme ça. Alors vous allez voir qu'avec de la modélisation, on va pouvoir s'en servir pour répondre à la question de l'avalanche centenale. Alors bon, voilà, là on va parler un peu de physique d'avalanche. Qu'est-ce qu'une avalanche ? Si vous voyez des fautes de français, je vous demande de m'en excuser. Donc c'est un déplacement sous l'effet de la gravité, un déplacement rapide, c'est pas la reptation de la neige, c'est vraiment rapide, c'est-à-dire en mètres par seconde, en kilomètres par heure, on peut atteindre jusqu'à 300 km heure, d'une masse de plusieurs dizaines de mètres cubes. C'est pas une boule de neige, c'est vraiment un volume important. Pardon. Ici, on peut voir différents types d'avalanches, des avalanches denses. C'est quoi une avalanche dense ? C'est une avalanche qui reste dans la densité, la masse volumique reste proche de la masse volumique de la neige initiale. D'accord ? Parfois même, elle se densifie. La masse volumique peut se multiplier par 1,5. Mais par contre, parfois, on observe des avalanches comme ça. C'est la même neige, mais elle peut développer des volutes, des turbulences, une suspension. On appellera une suspension parce qu'il y a 90% d'air et moins de 10% de neige, donc plus de 90 et moins de 10% de neige, et la densité est très faible, là on est plutôt à 20-30 kg. Et là, c'est ce qu'on appellera ça des avalanches aérosols, je vous expliquerai tout à l'heure comment ça se forme. Alors, quelques idées de terminologie, vous n'allez pas entendre parler de zone de départ, c'est là où l'avalanche prend naissance, la pente est forte, de l'ordre de 35 à 45 degrés. Ensuite, vous allez entendre parler de zone d'écoulement. C'est là où l'avalanche se forme, là où elle grossit, là où elle se développe. Et là, on parlera de zone d'écoulement. La pente varie de 40 degrés à 15 degrés. Et puis la zone d'arrêt, c'est là où il y a les habitations, à partir du moment où la pente est inférieure à 15 degrés. Donc une avalanche, comme je disais tout à l'heure, peut être dense, peut être un aérosol pur, mais elle peut être mixte, c'est-à-dire avec un fond dense recouvert par un nuage. Mais les avalanches, en tant que telles, c'est pas un problème. Le problème, c'est que quand elles interagissent avec des habitations ou des personnes, c'est là où il y a un risque, parce qu'il y a vulnérabilité. Et vous voyez qu'elle peut détruire la forêt, elle peut détruire des habitations, et elle peut tuer des personnes. Alors, il faut, pour avoir de la neige, des avalanches, il faut un manteau neigeux. Un manteau neigeux froid et peu stable. Bon, vous entendez souvent parler de déclenchement en plaques. Ce sont des plaques qui se forment à la suite du transport de neige par le vent. Le vent va éroder la neige là où où le vent est fort, c'est-à-dire souvent au vent. Et sous le vent, derrière, le vent va se retrouver dans une zone où la surface d'écoulement va grossir. Donc la vitesse va diminuer, les particules vont se déposer. Et ce qui forme en général des plaques énormes qui peuvent atteindre plusieurs mètres. Donc ensuite, quand l'avalanche se déclenche, elle va s'écouler, dense ou aérosol, et quand elle interagit avec la vulnérabilité, une quelconque les enjeux, elle peut produire des dégâts. Alors, je vais vous passer ici une série d'images pour vous montrer ce qu'est une avalanche mixte. Ça, c'est un collègue des RTM, qui se promenait dans le secteur d'Abriès, dans le Kera, et qui, en se tournant, a vu ça. Il a pris la première photo, la deuxième photo, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Donc c'est un beau nuage qui vient de passer. Eh bien, quand il s'est rapproché un peu plus du couloir, voilà ce qu'il a vu. Le dépôt. C'est ça que j'appelle une avalanche mixte. Vous avez un écoulement d'avalanche dense, lourde, qui se déplace vite, donc dont la densité, la masse volumique est de l'ordre de 200 à 300 kg, qui est couverte par un nuage dans la densité plus faible. Mais en termes de dégâts, c'est cet écoulement-là qui est le plus dangereux parce qu'il est 10 fois plus dense. Et comme la pression est proportionnelle à la vitesse au carré fois la densité, eh bien la pression d'une avalanche dense est 10 fois plus grande que la pression d'une avalanche aérosol, qui est elle-même 20 fois plus grande que la pression qu'une tempête, la tempête de 1999. Eh bien, si vous comparez l'avalanche aérosol à la tempête de 99, l'avalanche aérosol est 20 fois plus puissante. Et l'avalanche dense est 10 fois plus puissante que l'avalanche aérosol. Donc ça vous donne une idée une classification en termes d'énergie de ces trois phénomènes. Alors, en termes de dégâts, c'est pas l'avalanche aérosol qui va nous concerner le plus, c'est plutôt l'avalanche dense. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parlerai beaucoup plus d'avalanche dense et moins d'avalanche aérosol, sauf si j'ai des questions. Alors, cette stratification, on peut aussi l'observer en termes de dégâts. Ici, vous avez un immeuble de 6 étages à Arinsal, en Andorre. Il a été touché par une avalanche mixte en 1993 et les 3 premiers étages, on avait l'impression, je suis allé sur le terrain, on avait l'impression que la neige a été poussée par un caterpillar, par une machine. Et les étages suivants, les 3 étages suivants, ont été soufflés, comme s'ils ont été touchés par une tempête. Donc là, c'est une autre indication sur cette stratification verticale de l'avalanche. Ensuite, on fait des études et on a installé des radars sous terre au milieu des couloirs d'avalanche. Et quand l'avalanche passe, eh bien ces radars nous donnent une idée de la stratification de densité, stratification verticale de densité. Il y en a un en Suisse, un en Norvège. Et ce qu'on observe, c'est ce genre de choses. Je trace ici le temps et ici l'épaisseur, l'altitude. Et vous voyez que on a une couche dense recouverte par une zone de suspension qui correspond à l'aérosol. Donc de nombreuses indications, aussi bien de terrain que de dégâts que de mesures, montrent que les avalanches sont fortement stratifiées. Toutes les avalanches ne sont pas stratifiées. Les avalanches humides, par exemple, ont beaucoup de mal à développer l'aérosol. Par contre, les avalanches de neige froide développent très facilement des aérosols. Alors, là, je vais arrêter et je vais vous montrer quelques films qui rendent compte d'abord de ce que c'est qu'un écoulement dense, ce que c'est qu'une transition entre l'écoulement dense et l'aérosol, et un bel aérosol. Allez. Alors, on va prendre alors voilà, au couloir du Lautaret, au site du Lautaret, nous avons un site expérimental. Voilà un déclenchement avec de l'explosif. On a une avalanche de neige un peu humide. Donc elle descend relativement gentiment. Elle reste proche du sol, elle est très fortement influencée par la topo. Ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a des blocs, il y a beaucoup d'agrégats. Le même site, un autre jour, on déclenche. Donc on forme une avalanche qui va venir interagir avec nos instruments de mesure. Mais je voudrais que vous regardiez à la fin la taille des blocs que cette avalanche transporte. Là, on dirait que c'est un écoulement de boue. Donc là, elle interagit avec l'étrave, qui a d'ailleurs fini en épave, parce qu'elle a été détruite par une avalanche. Regardez un peu la composition de l'avalanche. Il y a beaucoup de blocs et très peu de neige, de taille et des grains de neige. Il y a beaucoup de blocs, il y a vraiment beaucoup de blocs. Et il y a si on trace la distribution granulométrique de l'avalanche, il y a très peu de grains de petite taille. Alors, maintenant, on va voir ce que j'appelle la transition. Donc, vous voyez une avalanche là de neige froide. On déclenche avec un avalancheur. Ça s'écoule sous forme dense. Et puis, on voit apparaître au sommet un nuage qui se forme fait par prélèvement de particules au sommet de l'avalanche dense. Vous allez en avoir une deuxième. Donc là, ça c'est une plaque. Regardez, on a déclenché là et vous allez voir tout le cirque part en même temps. Ça c'est vraiment le signe de présence d'une plaque à neige très cohésive. Et dès qu'elle est détruite à un endroit, le volume qui est déclenché est immense. Donc là, vous voyez aussi l'apparition de l'aérosol. Ensuite, une avalanche poudreuse, une vraie. Celle-là, elle vient du site de la Sionne. C'est un site suisse. Donc là, vous avez vraiment un aérosol, c'est-à-dire très moutonneux, avec beaucoup de turbulences. Vous voyez des écoulements verticaux, c'est-à-dire il n'y a pas qu'un écoulement comme ça, il y a aussi des déplacements verticaux. Et on estime que la vitesse de déplacement vertical est la moitié de la vitesse de déplacement du front. Ce qui fait que ce sont des avalanches qui sont capables d'arracher un toit, d'arracher des arbres, et contrairement aux avalanches denses qui, elles, vont venir pousser et détruire. Donc, voilà une autre. Et puis on aura à la fin une avalanche. Celle-là est encore une avalanche prise en Suisse. Celle-là. Ici, cette montagne, elle fait 120 mètres, cette colline-là. L'avalanche a été déclenchée là, c'est la pointe du Dard, à Pralognan. Donc l'avalanche arrive comme ça, et je vous invite à regarder ce qui se passe là, au sommet. Là. Imaginez que vous construisez une digue de 120 mètres pour vous protéger contre une avalanche aérosol. 120 mètres de digue. Eh bien, 120 mètres de digue ne sont pas capables de bloquer, d'arrêter une avalanche aérosol. Donc vous faites contre les avalanches aérosol, on ne se protège pas, on ne fait que réduire l'effet. C'est-à-dire on va agir sur l'avalanche en réduisant son énergie pour que, quand elle passe au niveau des habitations, elle ait beaucoup moins de pression. Mais on ne peut pas l'empêcher d'arriver. Bon, voilà les films que j'avais prévu de vous montrer. Alors, après tous ces films, toutes ces informations, on peut dire qu'une avalanche est composé d'un écoulement dense, recouvert par une zone d'échange, qui est lui-même recouvert par un aérosol. Eh bien, voilà le modèle que l'on utilise au jour d'aujourd'hui pour simuler un écoulement d'avalanche. Bon, pour construire ces modèles, il faut faire un peu de physique. On ne peut pas y échapper. Alors, la neige d'abord. La neige est un matériau granulaire, complexe, parce que il n'a pas qu'une forme, il y a des milliers de formes possibles. Ce n'est pas un fluide simple comme l'eau ou l'air que l'on peut représenter par une loi simple de type viscosité ou des choses comme ça. C'est un matériau un peu plus compliqué que ça. Et pour modéliser la neige, pour avoir son comportement, c'est-à-dire comment, quand on le sollicite d'une certaine manière, comment il répond? Vous prenez l'eau, vous cisaillez l'eau, et bien l'eau va s'opposer à votre cisaillement avec une force qui sera proportionnelle à la viscosité et au taux de cisaillement que vous lui imposez. La neige ne réagit pas de cette manière-là. Donc ce n'est pas un fluide newtonien. C'est un fluide un peu plus compliqué et nos recherches vont nous amener à définir sa loi de comportement. Alors, par contre, on peut remarquer une chose, c'est que les avalanches, ce sont des écoulements très longs comparés à leur épaisseur. C'est-à-dire une avalanche peut faire plus de 100 mètres de long, alors que son épaisseur peut être de 1 à 10 mètres. Donc si je prends l'épaisseur et je la divise par la longueur, je serai inférieur à 0,1, j'aurai un rapport qui est inférieur à 0,1, donc je peux dire que mon avalanche est un écoulement mince. Eh bien, cette hypothèse-là me permet de me situer dans un cadre formel classique, qui est le cadre développé par Saint-Venant pour l'eau, et ce qui me permet en fait de décrire mon écoulement par une vitesse moyenne et par l'épaisseur qui variera à ce moment-là en fonction du temps et en fonction de l'espace. Et ces deux variables qui décrivent mon écoulement sont gouvernées par deux équations. La première, c'est la conservation de la masse, et la deuxième traduit la conservation de la quantité de mouvement. Par exemple, ici, vous voyez dans ces équations, si je me mets à un endroit donné, j'ai ma variation de hauteur en fonction du temps qui va dépendre du gradient de la hauteur fois la vitesse, donc c'est-à-dire le débit. C'est-à-dire que ma hauteur va augmenter si le débit qui rentre est plus grand que le débit qui sort. Par contre, si le débit qui rentre est plus faible que le débit qui sort, je vais avoir une hauteur qui va diminuer. Donc voilà ce que veut dire cette équation. D'accord ? Cette équation-là, eh bien, si je pose mon bloc, un bloc de neige, sur une pente, je vais avoir sa vitesse qui va augmenter en fonction de la gravité, en fonction du frottement que le sol va opposer. Donc en fait, la différence entre la gravité, la tangente θ, la tangente de la pente, moins le coefficient de frottement, c'est ça qui va caractériser le fait que mon bloc va accélérer ou va décélérer. Si, par exemple, le coefficient de frottement de ma neige est plus faible que la tangente de la pente, eh bien, mon avalanche va accélérer. C'est ce qui se passe en zone de départ. La pente est très grande, beaucoup plus grande que le coefficient de frottement, donc mon avalanche va accélérer. Par contre, quand je me retrouve en zone d'arrêt, où la pente du terrain est bien plus faible, eh bien, à ce moment-là, il se peut que mon coefficient de frottement soit plus grand. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Et à ce moment-là, mon avalanche va ralentir et va s'arrêter. Donc en gros, sans rentrer trop dans ces équations, ça veut dire, c'est un peu l'essentiel est décrit de cette manière-là. Bon, maintenant, la neige, on va considérer ça comme un matériau granulaire. Et on va définir son coefficient de frottement de la manière suivante. On va prendre la neige, on va la solliciter par une force, d'accord ? Et puis on va cisailler. D'accord ? Voilà les deux sollicitations que je vais imposer à ma neige. Et ensuite, je vais mesurer la force que la neige va exercer sur cette surface basale. Je vais mettre une balance qui va me dire de combien, quelle est la force que j'exerce dessus. Et je vais écrire le frottement ici en fonction de sigma, de cette force-là, et du taux de cisaillement que j'impose. Eh bien, ça, c'est ce qui se passe un peu quand une avalanche s'écoule sur un plan incliné, sur une pente. Elle a un poids, donc c'est le fameux sigma. Et puis, le cisaillement, eh bien, c'est la vitesse de l'avalanche divisée par son épaisseur. OK ? Donc, si je peux me mettre en laboratoire et je faire cette expérience-là avec de la neige, je peux pratiquement simuler ce qui se passe dans une avalanche, à petite échelle, dans des conditions particulières, mais je peux m'en approcher. Alors maintenant, quand on regarde l'ensemble de la bibliographie, parce qu'un chercheur, quand il commence à s'intéresser à un phénomène, il regarde d'abord ce qu'ont fait les anciens. Ça, c'est l'étape zéro. Donc on a commencé par regarder toutes les publications existantes, et puis on a regardé dans quelle plage varie le coefficient de frottement. Alors quand la neige frotte sur des matériaux comme un ski ou comme de la glace, eh bien, on a des coefficients de frottement qui varient de 0,01 à 0,1. C'est-à-dire, c'est des frottements très faibles. Quand la neige frotte sur de la neige, le coefficient de frottement va de 0,1 à 1, voire même un peu plus. Et là, c'est une liste bibliographique qui n'est pas exhaustive, mais c'est juste pour vous signaler que le premier travail que l'on fait, c'est regarder ce qu'ont fait les anciens. Le premier travail qui a été fait sur la modélisation des avalanches a été fait par Volmy en 1955. Bien, Volmy avait des mesures de vitesse et des mesures de hauteur de plusieurs avalanches. Et il a tracé les hauteurs sur un axe, les vitesses sur l'autre, et il a reporté ces points de mesure pour les avalanches sèches rapides, les avalanches sèches avec aérosol et les avalanches lentes. Et puis il a dit, bon, ben, mon avalanche, je vais considérer que le frottement résulte de deux choses. Il y a un frottement solide qui est initial, Mais quand mon avalanche accélère, il y a de l'excitation, il y a de l'agitation à l'intérieur, et cette excitation va me dissiper une partie de mon énergie. Donc, il a considéré que son frottement vient d'une partie frictionnelle, comme si c'était un solide qui glisse sur un autre solide, auquel s'ajoutent des chocs. Donc, la première est proportionnelle uniquement au poids, et la deuxième est proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, il a construit la première loi, qui est ici, qui dit que le coefficient de frottement, eh bien, le coefficient de frottement, il est proportionnel à une valeur constante qui est la partie solide. Et ça, je me suis trompé, c'est U carré. D'accord ? Donc il a construit le premier modèle et il l'a calé sur ses données de terrain. Le deuxième modèle a été fait par un chercheur chilien à l'Institut des basses températures au Japon. Et lui, il a fait vraiment l'expérience que je vous ai racontée tout à l'heure. Il a pris deux tores de neige. D'accord ? Donc voilà le premier tore qui est là. Le deuxième, là. Il a mis un système qui lui permettait d'imposer une force. Et il a mis un moteur ici qui lui permettait de fixer une vitesse. Donc il a imposé une force et il a imposé un cisaillement. Et il mesurait le frottement qui en résulte. Et il a tracé des courbes de coefficient de frottement en fonction de la vitesse. Il a trouvé qu'il y avait une augmentation parabolique. Et puis, cet offset-là, cette valeur quand la vitesse est nulle, il a montré qu'elle dépendait beaucoup de la température. C'est-à-dire le coefficient de frottement à vitesse nulle, c'est-à-dire celui qui traduit le comportement solide, il a montré qu'il dépendait beaucoup de la température. Quand les températures sont très basses, il trouve des coefficients de frottement de 0,2. Quand la température s'approche de 0,4, de moins 5 à 0 degré, on est plutôt dans des coefficients de frottement de 0,4. Eh bien, ça, c'est utilisé par les experts pour faire, en termes d'application. Une avalanche qui descend une avalanche qui mobilise de la neige froide aura un coefficient de frottement très faible. Donc, elle continuera à accélérer tant que la pente n'est pas devenue très, très faible. Une avalanche qui mobilise de la neige vieille, chaude, moins 5 à 0, eh bien, celle-là commencera à ralentir dès que la pente sera de l'ordre de 0,4. C'est pour cela que, en termes de gestion du risque, on fait très attention quand la neige est très froide. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait, nous, en France ? Eh bien, en France, on a construit un canal de 10 mètres qu'on alimente... Un canal qu'on alimente avec un débit constant et on fait des mesures de vitesse et de hauteur et on essaye de trouver la relation qui lie. On essaye d'obtenir d'abord des régimes permanents et quand on a des régimes permanents, on peut dire que le coefficient de frottement est égal à la tangente de la pente. Donc on a la vitesse et la hauteur, le coefficient de frottement par la tangente de la pente. Donc on accède à la relation entre le coefficient de frottement, la vitesse et la hauteur. C'est ça qu'on cherche et c'est ça qui nous permet de construire notre modèle. Alors, évidemment, les expériences ne se font pas toutes seules. Il faut, le premier jour, on commence par déneiger le canal. On peut parfois utiliser une dameuse. On peut aussi pelleter pour pouvoir le dégager. Donc, ça fait vraiment pas mal de boulot. Donc, on a fait 80 essais. Je vais vous montrer un film tout à l'heure. Donc, combien il me reste ? Une demi-heure, c'est ça ?
Je n'ai pas survécu.
Je suis parti à Icar, donc voilà. On commence par broyer la neige. Ensuite, on la fait passer dans un grillage pour remplir cette trémie. Et en fait, ici, on a une espèce de vis d'Archimède, en fait une machine à saucisses, qui, quand on fixe la vitesse de rotation, elle nous impose le débit. Donc elle nous donne le même débit tout le temps, tant qu'il y a de la neige dans la trémie. D'accord ? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on mesure ? La première chose que l'on mesure, on mesure la force, le poids et la force tangentielle. Et pour cela, on a mis en place, en fait, des capteurs piézoélectriques de contrainte qui nous donnent à la fois cette force-là et celle-là quand l'avalanche coule. D'accord ? Donc on a la contrainte tangentielle et la contrainte normale. On a des capteurs qui nous donnent la hauteur de l'écoulement à plusieurs endroits. Et puis, pour la mesure de vitesse, on a inventé un système parce qu'il n'y a pas moyen d'aller mesurer la vitesse de l'avalanche facilement. Et pour cela, on a utilisé les mêmes systèmes des lecteurs de code barre. Mais les systèmes de lecteurs de code barre sont basés sur une espèce d'outil de diode, deux diodes en fait, un qui émet la lumière et la lumière se réfléchit sur les objets et revient sur un récepteur. Et en fonction de la granularité de ce qui passe à côté, eh bien la signature change. Et donc l'idée, c'était de mettre un ensemble, un outil comme ça, un là et un là, comme ça, quand l'écoulement passe à côté, mais passe d'abord à côté de celui-là, ça fait une signature, et comme le deuxième est placé relativement proche, on considère que la neige ne change pas, et on a la même signature. Donc on a une signature, on a un autre signal, et on intercorrèle les deux, on décale un par rapport à l'autre jusqu'à ce que la corrélation entre les deux soit maximale. Et bien on dit, quand le décalage qui permet d'avoir la corrélation maximale, et bien c'est le temps qu'a mis le grain ou l'amas de grain pour passer d'un capteur à l'autre. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on accède à la vitesse. Évidemment, on en a mis un premier couple, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, sur toutes les baissures. Toutes les 0,5 cm, on avait un capteur. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat ? Ça viendra, mais je vais vous montrer une expérience. Bon, c'est une expérience qui n'a pas été utilisée pour. C'est juste pour montrer un film. Donc voilà un écoulement. Voilà, vous voyez les capteurs. Ici, les capteurs de hauteur. Il y en a plusieurs. Ici, on a les capteurs de vitesse et les capteurs de pression. Donc voilà un écoulement pris de côté. C'est le même. Et voilà l'essai qui se termine. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps parce que. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on obtient ? D'abord, quand on regarde, quand on met la pente du canal à moins de 33 degrés, eh bien, la neige s'accumule. Ça décélère et s'arrête. Ça veut dire que le coefficient de frottement est plus grand que 33 degrés, du moins pour ces neiges-là qu'on a étudiées. D'accord ? On a un écoulement qui décélère et qui bloque le système, puis tout s'arrête. Quand on est supérieur à 41 degrés, eh bien les 10 mètres du canal ne nous ont pas permis d'atteindre un régime stationnaire. Là, ça continue à accélérer. L'écoulement continue à accélérer. Par contre, entre 33 degrés et 41 degrés, eh bien, on a obtenu un régime qui s'établit et qui ne bouge plus, avec plus aucune variation de hauteur, plus aucune variation de vitesse. On a un régime permanent établi. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, la pente, la mesure de pente, la tangente de la pente est égale au coefficient de frottement. Mais comme on a une mesure de force normale et force tangentielle, ben, il a suffi de les diviser l'une par rapport à l'autre et obtenir aussi le coefficient de frottement. Et les deux mesures, la tangente d'un côté et les deux forces, nous ont permis d'obtenir le même résultat. Donc, ils confirment ce résultat-là. Donc, en termes de profil de vitesse sur les régimes établis, on a obtenu une zone très fortement cisaillée, c'est-à-dire où la vitesse varie beaucoup. Et cette épaisseur, elle fait à peu près 2 cm. Et tout le reste de l'écoulement est cisaillé, mais cisaillé avec un taux de cisaillement beaucoup plus faible, 10 fois moins. Okay, voilà un profil de vitesse bizarre. Ce n'est pas un profil de vitesse d'un fluide normal. Donc je vais essayer, on a aussi observé l'existence d'agrégats, mais je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Là, ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que quand on refait la même expérience deux fois de suite, on obtient le même résultat. Quand on fait la même expérience trois fois de suite, en laissant la neige reposer pendant une minute, pendant 10 ou pendant 15 minutes, on obtient le même profil de vitesse. Donc, la technique expérimentale n'influence pas beaucoup le résultat. Mais il fallait le tester. Il fallait montrer que le protocole expérimental ne modifiait pas de manière significative le résultat. Maintenant, quand on augmente la pente, en maintenant le débit constant, eh bien, on obtient des vitesses de plus en plus grandes. Ça, c'est ce qu'on obtient à 40 degrés. Et ce profil de vitesse, donc ici, vous avez l'épaisseur de l'écoulement, la hauteur. Ici, vous avez la vitesse. Quand la pente est grande, on a une vitesse grande. Quand la pente est faible, on a une vitesse faible. Maintenant, quand on a le débit constant, la pente constante, et quand on augmente, non, quand on a la pente constante, on regarde des écoulements de différentes épaisseurs. Eh bien, quand l'épaisseur est faible, on a une vitesse faible. Et quand on a une épaisseur grande, on a une vitesse grande. On peut, d'une campagne de mesure à une autre, la neige change. Donc, la qualité de la neige va changer. Donc, en faisant la même expérience avec le même débit, avec la même pente, eh bien, d'une neige à l'autre, les propriétés, le champ de vitesse, la vitesse change. Il peut y avoir des neiges avec des vides qui donnent lieu à des vitesses grandes, donc des frottements faibles, et par contre, il peut y avoir des neiges qui donnent des frottements plus grands, donc des vitesses plus faibles. Si on prend toutes nos expériences et on les représente sur un diagramme angle, θ, c'est-à-dire tangente θ, en fonction de la vitesse sur racine de gh, h étant la hauteur de l'écoulement, en hydraulique, on a l'habitude d'utiliser ce nombre qu'on appelle le nombre de Froude, en fait, qui est le rapport entre la vitesse de l'écoulement et son épaisseur, le poids, c'est-à-dire les forces d'inertie par rapport aux forces de poids. C'est un nombre qu'on utilise beaucoup en hydraulique. Eh bien, il reste pertinent pour les avalanches. Il permet d'écrire que le coefficient de frottement, c'est tangente θ0, ça c'est le mu0, plus une fonction qui est proportionnelle à la vitesse au carré ou au Froude au carré. Et en fait, quand on compare ces résultats aux résultats de Cassassa, aux résultats de Volmi, on trouve les mêmes tendances. Alors, maintenant, en tant que mécanicien des fluides ou de physicien des fluides, je voudrais coller une loi sur ce fluide. Laquelle ? Est-ce que c'est un fluide newtonien ? Certainement pas. On a l'habitude d'utiliser des fluides à seuil. Si on cale une loi de fluide à seuil, en fait, on a un profil qui est constant, la vitesse est constante comme ça, et il est cisaillé à la base. Quand on prend un fluide à seuil avec une vitesse de glissement, on obtient un profil comme ça. Mais on a toujours une zone de vitesse constante, ce qu'on n'obtient pas dans nos avalanches. Donc le fluide newtonien ne marche pas, le fluide à seuil ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on a regardé ? Je ne vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus parce que le temps passe. On a regardé ce qu'on connaît en matière de fluide granulaire. Alors les fluides granulaires, ils ont un certain nombre de caractéristiques qui sont proches de ce que l'on observe dans nos expériences. Ils ont des écoules, ils s'arrêtent quand la pente est inférieure à un certain seuil. Ils restent accélérés quand on dépasse un autre seuil de pente et on obtient des régimes permanents uniformes que dans une gamme de pente. C'est ce que l'on a obtenu dans nos expériences. Par contre, les fluides granulaires simples, quand on les regarde, eh bien, leur profil de vitesse, il est comme ça. Il ne correspond pas au profil de vitesse que l'on observe. Alors, en fait, on a utilisé une méthode adaptée aux écoulements granulaires qu'on appelle méthode discrète, qui consiste à étudier la dynamique d'un système que l'on décompose en éléments discrets et dont on établit des liens entre les grains, on les cisaille et on regarde par des méthodes numériques comment ils se comportent. Et on essaye de mesurer l'aide d'un ordinateur en fonction du cisaillement que l'on impose et de la force qu'on impose, quelle force elle en résulte. Eh bien, il se trouve que Donc je vais passer là-dessus et je vais vous montrer si les choses marchent bien, si j'arrive à avoir la souris. Bon, on va y aller directement. Si vous prenez un matériau granulaire et que vous le cisaillez, ça c'est des simulations numériques, vous obtenez un comportement comme ça. Et vous trouvez des lois de comportement qui sont adaptées au milieu granulaire sec. Voilà. Maintenant, si je prends le même milieu, je rajoute un tout petit peu de cohésion entre les grains. Voilà ce que j'obtiens. Le milieu se dilate. Il n'y a pas de contact permanent entre les grains. Et puis, je forme des agrégats. D'accord ? Donc ça, il y a déjà l'idée de fait qu'on ait des agrégats. C'est ce qu'on observe dans nos expériences. Peut-être que notre profil de vitesse correspond à celui d'un matériau granulaire où il y a des agrégats, c'est-à-dire où le matériau est polydisperse. Donc c'est pour cela que l'on a étudié, avec la même méthode, des écoulements avec des grains de différentes tailles. Et puis, on a regardé, en fonction du nombre des gros grains par rapport au volume total, à partir de quand on commence à obtenir une zone cisaillée fortement à la base et une zone moins cisaillée, mais cisaillée quand même, cisaillée plus faiblement dans le corps de l'avalanche. Et bien, avec des outils de modélisation comme cela, de méthode discrète, je vais vous montrer le résultat. Voilà, le résultat est sur cette diapositive, c'est-à-dire qu'on commence avec un matériau homogène et on rajoute de plus en plus de grains, de gros grains. Eh bien, ce qui se passe, c'est que alors attendez. C'est que ce qu'on obtient, par rapport à un matériau granulaire simple, on a un profil comme ça. Par contre, avec un matériau bidisperse, on obtient un gradient plus fort ici et un gradient plus faible là. Est-ce que j'ai mieux ? Voilà, si, j'ai mieux. Voilà, je me disais aussi. Donc un granulaire sans cohésion, et comme ça, et homogène, un granulaire polydisperse finit, en fonction du nombre de gros grains que l'on rajoute, finit par nous donner le même profil de vitesse que l'on observe. Donc, de ces expériences-là, de ces simulations-là, on peut dire que le profil de vitesse, il provient de la bidispersité du matériau. Maintenant que j'ai une loi de comportement des avalanches denses, j'ai une formulation du coefficient de frottement, je vais vous montrer que je peux répondre à la question que je me suis posée au début. Donc je repose la question du zonage. J'ai des données de terrain qui me permettent d'avoir l'avalanche cinquantennale. Et je voudrais des avalanches centennales, trois centennales, etc. Eh bien, je vais procéder de la manière suivante. J'ai la topo, j'ai un modèle numérique basé sur la physique que je viens de vous expliquer. Et ce modèle a besoin de trois paramètres. Un coefficient de frottement mu. Non, il a besoin de deux paramètres. Le coefficient de frottement mu, à vitesse nulle, et il a besoin de la hauteur de neige, le volume de neige. Donc voilà ce que je fais. Donc je prends mes données. Je prends le profil de tout le couloir. Et pour chacune des avalanches historiques, je mets la neige là où elle était, avec l'épaisseur que j'ai observée sur le terrain, et je cale le coefficient de frottement mu, de manière à ce que le modèle me donne la distance d'arrêt que j'ai observée. Je fais de la calibration. Et je le fais sur 50 avalanches. D'accord ? Donc, en fait, je transforme ma distance d'arrêt en coefficient de frottement. Et puis, je montre que le coefficient de frottement est indépendant de l'épaisseur de neige. Donc, à ce moment-là, j'ai 2 degrés de liberté. Mon système a 2 degrés de liberté. L'épaisseur de neige et la qualité de la neige, qui traduit le coefficient de frottement. Et en fait, ce que je fais, je cale une loi statistique sur mes 50 données de coefficient de frottement. Et je cale une loi statistique sur mes hauteurs de neige. D'accord ? Et je fais des tirages aléatoires. Je fais un tirage aléatoire de 10 000 coefficients de frottement. Et je fais un tirage aléatoire de 10 000 épaisseurs de neige. Et je simule, pour chaque couple de coefficients de frottement et d'épaisseur de neige, je simule une avalanche. Et au bout du compte, je vais me retrouver avec 10 000 distances d'arrêt sur 10 000 ans. Et là, je peux estimer l'avalanche centennale, 150 ans, 200, 300, 400, 500, même l'avalanche millénale. Voilà comment combiner des données naturalistes avec un modèle numérique de terrain permet de répondre à une question opérationnelle. Je ne sais pas si j'ai été très clair là, parce que je suis passé un peu vite, mais le... Donc, je vais quand même vous montrer comment fonctionne. Voilà, par exemple, l'utilisation de ce modèle, qui est un modèle bidimensionnel. En fait, vous lui donnez un modèle numérique de terrain. Je ne dirai pas plus, puisque la collègue avant moi en a beaucoup parlé. Si vous faites une représentation du terrain la plus fine possible, vous mettez la neige là où elle a été observée naturellement. Alors, ça va venir ou pas ? Voilà. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait vous partez avec une neige initiale et que les lois de conservation de masse et de quantité de mouvement vous permettent de simuler l'avalanche jusqu'à l'endroit où elle s'est arrêtée effectivement. Et en fait elle s'arrête, si vous mettez un coefficient de frottement faible, elle va plus loin. Si vous mettez un coefficient de frottement plus grand, elle s'arrête plus tôt. Et donc par un processus itératif, on va chercher le coefficient de frottement qui nous permet de retrouver l'extension historique. Donc si j'ai d'autres choses à vous montrer, mais je pense que je ne veux pas forcément vous encombrer trop.